moment très solennel, ce matin, pendant ce repas de Sainte-Cène, par rapport aussi à la profondeur des chants, le sacrifice de Jésus, son humilité, son amour extrême, pour être le thème de ce message, du troisième chapitre de ce message. Le titre est « Tout accompli » ou « Tout est incompris » ou alors « As-tu bien compris ?» Je dis troisième chapitre parce que le premier chapitre, je l'avais entamé lorsque j'avais parlé du figuier stérile, dont vous vous souvenez certainement. Le deuxième chapitre étant ensuite la vigne improductive, dont vous vous rappelez aussi très certainement. Après avoir parlé de loyauté, de droiture, d'authenticité et de vérité, que l'on marche dans la lumière ou que l'on marche dans les ténèbres, nous avons vu qu'il est inutile et vain de servir de maître. Avons-nous bien compris ce qui avait été dit? Question que je vous pose. Je pense avoir la réponse. Oui, bien sûr, on a tous compris. Et à la lumière de ce qui avait été dit, sommes-nous aujourd'hui des êtres accomplis? Tout est accompli. Parole de Jésus prononcée sur la croix. Pour faire entendre aux hommes et à son Père que la mission est arrivée à son terme. Mission qu'il a réalisée à 100%. Et nous, quelle est notre mission? Jésus nous a donné une mission, juste avant son ascension. Nous pouvons la lire dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 19. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Comment faire des disciples? En étant soi-même un disciple. Car l'on ne peut demander à quelqu'un de devenir ce que l'on n'est pas. On ne peut former une personne à devenir disciple qu'après avoir été formé soi-même. Qu'est-ce qu'un disciple? Pourquoi est-ce si important de devenir disciple? Combien de temps dure notre formation? La définition du disciple la plus simple et la plus directe peut se définir comme étant un élève qui suit son maître, tout simplement, mettant en pratique ce qu'il doit faire de son maître pour pouvoir l'imiter. Il doit faire son maître, donc il va se nourrir de ses paroles, observer ses actes, et lui-même, qui se dit disciple, va manifester ses mêmes actes ainsi que ses mêmes paroles. Pourquoi? Pour amener d'autres personnes encore à devenir des disciples, pour que ces mêmes personnes, ces mêmes disciples, qui s'ajoutent au nombre, puissent jouir de la présence du Maître, être au bénéfice de sa bonté, de sa bienveillance et de ses actions. Pour qu'une relation toujours plus profonde et une communion toujours plus intense puissent se manifester. Il est nécessaire de savoir que cette formation a pour but de nous faire devenir des individus accomplis dans tous les domaines de notre vie, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos ambitions et dans nos objectifs. Deviens disciple qui le désire. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 66 et 67. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Donc, comme il est écrit dans ce verset 66, il est parlé de disciples qui observaient le maître et qui suivaient le maître. Mais à un moment donné de leur vie, ils se retirent. Le travail du disciple étant de rechercher ce qui l'amènera à connaître son maître, sa quête devra être entière, sans compromis. Et cette quête aura pour valeur l'authenticité. Les disciples qui se sont retirés ont été authentiques et loyaux envers Jésus. Ils ont fait un choix. Comme on l'avait vu dans la vigne improductive, ils n'ont pas marché clopin clopin. Ils ont pris le choix de se retirer. Tout comme certains ont pris le choix de rester. Ne peut devenir disciple que celui qui suit son maître et celui qui s'engage à en obtenir les vertus. Comme je l'ai dit, c'est une quête. Et lorsqu'on veut faire une quête de quelque chose, on cherche, on recherche, et on recherche encore plus. Tout ce qui nous amènera à la connaissance et à l'atteinte de cet objectif. Cette quête se passera-t-elle sans accroc, sans embûche, sans obstacle, sans détour, sans chemin que nous aurons rebroussé? N'aurons-nous pas des luttes? Bien évidemment que si. Pour acquérir des connaissances dans le domaine spirituel, nombreux seront les obstacles. Nombreux seront les freins. Nombreuses seront les montagnes à franchir. La chair, avec laquelle nous devons lutter, notre entourage, pour lesquels nous sommes parfois pris pour des incompris ou des insensés, ou que nous pouvons scandaliser aussi parfois. L'adversaire, également, nous mettra des bâtons dans les roues quant à notre quête. Le monde. Mais le Maître nous donnera sa grâce d'avoir une armure pour arriver à la fin de notre mission. Armure qui est décrite dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6. L'armure qui se constitue de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de paix que donne l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans sa grâce, Dieu nous donne les armes pour pouvoir lutter contre l'adversaire. Toutes les armes sont de notre côté, sont mises à notre service. Après, reste à nous de nous en servir et de vouloir les utiliser et de savoir aussi les utiliser. Nous aurons des échecs. Mais à chacun de ces échecs, nous amène toujours à être plus prudents et à veiller. Le mal en soi n'est pas d'avoir des échecs, des luttes ou des chutes, mais de faire de ces échecs et de ces luttes un tremplin pour ne pas recommencer, à retomber ou à chuter de nouveau. Nous devons nous servir des circonstances et des conséquences de nos chutes et de nos échecs. Comme je disais, le mal en soi n'est pas d'avoir des chutes, mais de pouvoir rebondir. Lorsque viendra la fin, et elle viendra, le tout sera de se dire, ma vie a-t-elle été un échec? Ai-je échoué quant à ce qui m'a été demandé? Tomber n'empêche rien. Il est normal de tomber. Il est normal de chuter. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est rester à terre. Et se plaire à être couché au sol. Le Nouveau Testament utilise le mot disciple nombre de fois. Nombre de fois dans la bouche de Jésus. Nombre de fois dans la bouche des foules. Nombre de fois dans la bouche des disciples. Mais il y fait référence dans trois domaines. On peut caractériser trois styles de disciples, trois catégories de disciples. La première catégorie regroupe ceux qui sont simplement curieux de connaître Jésus et de voir ce qu'il fait, ou d'entendre ce qu'il dit. Jean, chapitre 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc là, ils ont été curieux d'une croyance. Ils voulaient voir le maître. Mais Jésus souligne que ce groupe de personnes se révélerait comme de vrais disciples, quand elle passerait de la curiosité à une vraie acceptation de ses enseignements, quand elle mettrait en pratique sa parole. La deuxième catégorie concerne le disciple convaincu. Il a commencé par être curieux, comme je viens de le dire, au début, et au fil du temps, il a été convaincu de la véracité des paroles de Jésus et de son enseignement. Et comme nous l'avons vu dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 66, il s'est retiré, alors qu'il avait connaissance de toute la vérité, et de la personne de Christ, et de la mission qu'il devait remplir. Mais ne le voulant pas, il s'est retiré. Bien que convaincu, il n'est pas disposé à prendre un engagement ferme et définitif envers cette vérité. On risque d'en perdre la vie. Et la troisième catégorie, comme vous l'aurez compris, concerne le disciple engagé. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et c'est ce à quoi le Seigneur attend de nous. Des disciples engagés. Le disciple engagé est d'abord curieux, bien évidemment, désireux de suivre la vérité, quoi qu'il en coûte, et de la mettre en pratique, quoi qu'il se passe. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 67 et 69. Jésus dit donc aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Il ne porte aucune condamnation, aucun jugement. Il laisse le choix, encore la liberté de vie. Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Et Pierre pourrait rajouter, « Nous voulons encore connaître davantage. » Voilà la vertu du vrai disciple engagé. La meilleure définition de l'état de disciple se trouve dans 2 Timothée 2, au verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, dira Paul à Timothée, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Devenir disciple, faire part de ce que l'on connaît et enseigner. Voilà la mission du disciple que Jésus nous a demandé d'accomplir. Être désireux de s'engager soi-même totalement envers le Seigneur, d'apprendre de lui et de suivre la vérité. À quoi voulons-nous être soumis ? À qui voulons-nous être soumis ? De qui voulons-nous apprendre ? Le disciple est dirigé par la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'il connaît bien la parole. Il l'étudie avec un désir de s'y conformer. Il demeure dans la parole et s'en nourrit. Il se soumet continuellement tout en apprenant de nouvelles vérités et continuera à les mettre en application. Je ne vais pas dire qu'il se nourrit chaque jour de la parole, mais il y aspire et il combat pour le faire. Et même si parfois il s'en abstient, Dieu ne jugera pas, il laissera la liberté. Mais avant d'être un disciple engagé, cela implique une discipline et l'apprentissage de la loi de Christ et la volonté d'obéir à ses lois, peu importe ce qu'elles peuvent impliquer. Voilà l'appel à la condition de devenir un disciple. Appel qui s'adresse à chaque croyant. Appel à devenir et à se consacrer. L'engagement. Renoncer à soi-même par la consécration et prendre sa croix. Prendre sa croix ne veut pas dire suivre les souffrances de Christ ou se faire mienne ou soi des souffrances que Christ a endurées. Non, prendre sa croix, c'est s'identifier à Christ en se posant la fameuse question quand on est devant un choix, que ferait Jésus à ma place ? Voilà ce qu'est prendre sa croix. Obéir, ne pas tarder, ne pas retarder à devenir disciple. Prendre la décision sans calculer quel gain pourrait nous apporter de devenir un disciple, ou ce que l'on pourrait perdre. Et après avoir pris l'engagement, ne pas regarder en arrière ou retourner en arrière. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui parlait du passé. Il ne faut pas traîner son passé comme un boulet. Il ne faut pas que le passé soit un fardeau, bien que parfois il l'est. Et bien que parfois il le soit, trop souvent pour moi. Et ne pas regarder en arrière. Voilà ce que demande le Seigneur, pour marcher de l'avant. L'obéissance est la marque du vrai disciple. Un croyant qui n'obéit pas au commandement du Seigneur et au commandement des Écritures n'est malheureusement pas un disciple. Le vrai disciple se reconnaît dans l'amour qu'il témoigne, dans l'amour qu'il a pour la parole de Dieu, dans l'amour qu'il a pour ses frères et pour ses sœurs, dans l'amour pour les perdus. L'évangile de Jean, je l'appelle l'évangile de l'amour. Il est rempli d'amour, cet évangile-là, par rapport aux trois autres. Jean est le disciple de l'amour. N'était-il pas appelé le disciple de l'aimé? Quel disciple être? Aujourd'hui, Jésus franchirait la porte de cette assemblée et il nous demanderait, dans quelle catégorie veux-tu être? La première, la deuxième ou la troisième? Quelle serait notre réponse? Tout en restant vrai avec lui. Parce que nous ferions comme il est écrit dans Jean 6, 66, ou est-ce que nous ferions comme Pierre? Nous avons cru et nous savons que c'est toi le Christ, le Messie d'Israël, et c'est toi que nous voulons servir. Sachez-le, les gens du monde, et même certains croyants, n'aiment pas le disciple accompli. Les gens du monde n'ont pas aimé Jésus. Certains qui l'ont suivi ne l'ont pas aimé pour autant. Ceux qui ont haï Jésus haïront le disciple engagé. Voulons-nous toujours être un disciple engagé? Pourquoi est-ce que le monde ou certains croyants n'aiment pas le disciple engagé? La réponse est simple, que vous la connaissez. Ils dénoncent le péché. Je vais illustrer dans ce message deux exemples. Le premier exemple va parler des disciples, bien évidemment, d'Emmaüs. Tous, vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples qui marchent le long d'une route et qui rencontrent un homme. Cet homme n'est autre que Jésus, mais eux, aveuglés par leurs soucis, par leur apitoiement de ce qui vient de s'arriver, de leur incompréhension, eh bien, ils ne voient pas qui est leur maître. Ces disciples avaient écouté l'enseignement de Jésus, vu les miracles et entendu parler des miracles. Ils pensaient et avaient une idée préconçue de ce que devait accomplir Jésus. Ne devait-il pas être le libérateur d'Israël? Celui qui viendrait régner et restaurer la paix, celui qui bouterait les Romains, certainement en dehors d'Israël, qui prendrait la place de Pilate, qui gouvernait, le libérateur du peuple. Voilà ce à quoi ils s'attendaient de Jésus. Voilà quelle était leur pensée. Mais la pensée de Dieu était bien différente. Sa pensée était décrite dans les prophéties, dans sa parole. Tout était écrit. Déjà écrit. Ces disciples-là étaient-ils ignorants des Écritures? N'avaient-ils pas connaissance des prophéties de l'Ancien Testament? N'avaient-ils pas lu Ésaïe 53? Connaissaient-ils les textes? L'important n'étant pas d'ignorer ou de connaître, mais de comprendre. Il est vrai, lorsque l'on ignore quelque chose, il est difficile de le comprendre. Soit. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Ceux qui sont appelés disciples doivent avoir la connaissance, certaine. Mais que faire de cette connaissance? Méditaient-ils chaque jour? Examinaient-ils les Écritures comme les chrétiens de Bérée? Cherchaient-ils ou se satisfaisaient-ils de ce qu'ils savaient sans trop comprendre? Ce que l'on racontait leur suffisait-il? Voulaient-ils aller plus loin dans leur foi? Dans leur témoignage face à Jésus, ils diront « Il nous a été dit que... » On nous a raconté que. Que dira Jésus au sujet de leurs interrogations, de leurs doutes et de leur aveuglement? Vous ne comprenez pas. Votre cœur est lent à croire. Jésus en restera-t-il là? Non. Il donnera de son temps pour leur expliquer. La grâce est à l'œuvre. Leur aveuglement, leur lenteur à croire, leur incompréhension. Jésus ne s'arrête pas à cela. Aucune condamnation, aucun jugement, aucune moquerie. Il laisse le temps. Il explique et fait un bout de chemin avec eux. Maintenant, touchés par la grâce, ils ont soif de connaissance, de compréhension, soif de la présence de cet homme qui explique, instruit et dévoile le plan parfait de Dieu. Si bien que Jésus, à un moment de la soirée, allait partir, mais ses deux disciples retiennent Jésus. Reste avec nous pour la soirée. La bénédiction est sur leur tête. La grâce est à l'œuvre. Les écailles qu'ils ont sous leurs yeux commencent à tomber. Rien qu'à l'écoute de la parole et des paroles de Jésus, leurs yeux s'ouvrent. La parole est créatrice de vie pour ses disciples qui marchent dans les ténèbres. Elle éclaire ceux qui sont dans les noirs. La grâce leur a été donnée, la bénédiction s'ensuit. Le disciple qui cherche, qui veut prendre du temps avec son maître, qui médite à celui-ci, il saura révéler des vérités. Mais à celui qui ne recherche pas, qui ne médite pas, qui ne s'instruit pas, rien ne sera révélé. Et lorsque viendra la fin, comme je l'ai dit, elle viendra, que pourrons-nous dire devant Jésus? Je n'avais pas le temps, ou je ne voulais pas, tout simplement. Des vérités, comme accepter à suivre Jésus, non pas sur un chemin de triomphe, comme auraient voulu le suivre ses deux disciples et tant d'autres, mais sur un chemin de croix. La pensée du triomphe qu'avaient ses disciples les a amenés à quoi? À un cœur brisé, à un espoir déchu. Suivre Jésus sur le chemin des acclamations, des miracles, de l'émotion. Tous seraient partants. Tous voudraient être de ses disciples. Mais le chemin est à l'ombre de la croix. Combien seront-ils? Ils étaient préoccupés de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils n'ont pas obtenu, le Christ libérateur du peuple. Jésus ne les laissera pas dans cette situation parce qu'il aime l'être humain. Il va démolir leurs croyances et va les amener à voir et à aller plus loin. Le fait de réfléchir, de chercher, de méditer leur ouvre la porte de l'espérance. Rien n'est terminé. Ce n'est que le commencement, ces disciples. Il éclaire leur conscience et les conduit dans toute la vérité. Il fait tomber les barrières et les amène à la lumière. Alors, dans l'histoire, on nous raconte que la nuit commence à poindre. Leur disposition change, ainsi que leur situation. Tout cela parce que la parole de Dieu, pour celui qui la médite, qui s'en instruit et qui la comprend et la met en pratique, donne la vie. Ils ne seront plus spectateurs. Ils ne diront plus « on a entendu dire que », « on nous a raconté que ». Ils seront acteurs de leur vie et des manifestations des miracles et des bénédictions. Par leur engagement en tant que disciples, ils pourraient dire, comme Job l'a dit, « mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Et là sera toute la différence. Jésus n'a qu'un désir pour celui qui veut de lui. C'est celui de se révéler et de le bénir. Voilà pour les disciples d'Emmaüs. Deuxième exemple. Toujours Jésus avec ses disciples dans la chambre haute. Fait qui nous est relaté dans Jean au chapitre 13. versets 1 à 20. Jésus nettoyant les pieds de ses disciples. Que fait Jésus ? Un geste qui scandalise. Il a fait tomber des barrières, il a fait tomber des croyances aux disciples d'Emmaüs. Et là, que va-t-il faire ? Jésus amène l'incompréhension, l'interrogation. Et pour Pierre, ce geste du lavement des pieds amène de la révolte. Le maître qui se rabaisse pour laver les pieds des disciples. Et quoi encore ? C'est inadmissible. Imaginez Jésus rentrant ici, nous demandant de nous déchausser, alors que nous savons qui il est. Il se met à genoux et nous lave les pieds. Imaginez la scène. Lui, le roi des rois, s'abaissant à nos pieds. Tout comme les disciples d'Emmaüs, Pierre ne comprend pas. Il ne comprend rien à son maître. Il voudrait le suivre, être un disciple engagé, mais il ne comprend pas son maître. Ni ses paroles, ni ses gestes. Cette tâche pour Pierre est considérée comme humiliante, rabaissante. Elle est considérée pour lui comme la plus basse des actions que l'homme donne à un autre homme. Pierre voit son maître bien-aimé prendre la position du dernier des serviteurs, prendre la position de l'esclave. Pour Pierre, non, c'est inacceptable. Ce n'est pas sa place à Jésus, c'est encore moins son rôle. Il est profondément choqué quand il voit Jésus bousculer ainsi l'ordre des choses et les usages de la société. Pierre ne supporte pas de voir un maître s'abaisser ainsi devant lui. Pour Pierre, le geste de Jésus est scandaleux et il cherche à l'en dissuader. Cette position est trop humiliante pour un homme tel que Jésus. Jésus, fils de Dieu. Sa place est du côté des puissants. Position trop humiliante pour Jésus. Jésus devrait être à côté des puissants, à côté de ceux que l'on sert, à côté de ceux auxquels et devant lesquels on s'agenouille. Mais Pierre voit tout l'inverse. Encore une fois, les repères habituels sont brouillés. Un tel renversement de rôle est vraiment impensable et inacceptable pour Pierre. Tant il bouscule les codes. Que fait Jésus ? Il invite à la patience. Encore dans son amour. Il ne va pas se fâcher contre Pierre. Il ne va pas condamner sa réaction. Il va juger. Ce que je fais, tu ne comprends pas à présent, mais par la suite, tu le comprendras. Il donne du temps encore à Pierre, comme il a dû donner du temps aux disciples d'Emmaüs. Mais Pierre continue de persister dans son obstination. Non, je ne veux pas. Et là, Jésus, à voir l'obstination incessante de Pierre, que va-t-il faire ? Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi. Là, c'est sans équivoque. Si tu ne veux pas me laisser faire ce que je suis appelé à faire, tu ne peux être mon disciple. Et tu n'auras pas part à mon héritage. Et tu n'entreras pas dans mon royaume. Le refus de rentrer dans la perspective que Jésus sépare le disciple de son maître et du bonheur de vivre dans sa présence. Pierre comprend donc le risque s'il continue de dire non. On commence à comprendre que s'il refuse que Jésus lui lave les pieds, il n'aura pas part à l'héritage. Sans plus réfléchir, que va faire Pierre ? Lave-moi les pieds, Seigneur. Lave-moi les mains aussi, ainsi que la tête. Pierre tient à rester l'ami de Jésus. Mais il ne comprend toujours pas le sens de son geste. Jésus opère un changement complet des valeurs de Pierre. Il en a parlé plusieurs fois de tout ce qu'il a fait, Jésus. Son message était empreint de vérité. Laissez venir à moi les petits, Soyez le serviteur des autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne cherchez pas les premières places. Ne jugez pas par rapport à l'apparence. Pierre était au courant de tout ça. Il connaissait toutes ces paroles. Les comprenait-il vraiment? Et nous, nous les connaissons aussi, ces paroles. Les comprenons-nous réellement? Tout ce chemin parcouru ensemble pendant 3 ans. Mais pour Pierre, le message n'est pas encore passé. Perdre sa vie pour la sauver, il n'a pas compris. Être serviteur des autres, il n'a toujours pas compris. Les disciples ont entendu ces paroles maintes et maintes fois, et sans s'y prêter attention. Ils ne comprennent plus. Pierre ne comprend plus. Ce n'est pourtant que la mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Ce que Jésus fait, ou ce que Jésus dit, il le met en application. Telle est la valeur d'un homme. Je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. Pour être comprise, la parole doit être vécue par la personne qui l'a dit. Seul un témoignage vivant est crédible. Le renversement est total. Jésus s'agenouille devant l'être humain et se met à son service. L'amour extrême de Dieu le Père manifesté en Jésus le Fils. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui devant qui les anges s'agenouillent. Dieu, au pied de l'humain. En avons-nous connaissance? En avons-nous conscience? Chaque jour. Un Dieu assis sur son trône, indifférent à tout ce qui nous arrive? Certainement. Un roi des rois dans sa cour, sans sa couronne, ne cherchant ni gloire ni honneur. Il ne cherche pas la première place, ni pour être servi, ni pour dominer. Il n'a que faire de se trouver en haut, dans la hiérarchie, faire partie de l'élite. Chef suprême d'un peuple nombreux, ce n'est pas ce qu'il recherche. Il n'en a que faire. N'en déplaise à tous ceux qui veulent mettre Dieu à une certaine place. Dieu ne se laisse pas faire. Il se place là où il le désire. Ses disciples auraient pu lui dire non, comme l'a fait Pierre, et qu'à continuer à faire Jésus, ce pour quoi il a été missionné, servir et donner sa vie. L'abaissement de Dieu est scandaleux, il est vrai. Le serviteur souffrant provoque, l'image du Messie humilié choque. Une chose est à savoir et à retenir, la faiblesse de Dieu. Si cela est de la faiblesse, est-ce qu'aimer son prochain est de la faiblesse? Est-ce qu'aimer quelqu'un à donner sa vie est de la faiblesse? La faiblesse de Dieu est liée à son amour. Parce qu'il est amour, comme le décrit si bien l'évangile de Jean. Il s'approche de l'être humain, dans l'attente de pouvoir lui déclarer son grand amour. Amour gratuit et fragile à la fois. Fragile, parce que qu'est-ce que répondra l'autre en face? Va-t-il accepter cet amour ou va-t-il le bafouer et le rejeter? Si l'homme cherche Dieu, il ne le trouvera pas à la première place, ni dans les hauteurs des cathédrales, ni sur des vitraux superbement peints, ni dans des reliques ou dans des statues merveilleusement taillées. Il le trouvera dans un endroit habité par un cœur capable d'aimer. Voilà où est la place de Dieu. Son chemin passe par le refus de pouvoir et le refus de séduction. Seule l'humilité nous ouvrira le cœur de Dieu et la connaissance de sa parole. Ne cherchez pas Dieu dans la satisfaction. Ne cherchons pas Dieu dans la réussite. Ne cherchons pas Dieu dans les sensations, dans les émotions. Cherchons-le dans un cœur qui puisse l'aimer. Dans le cœur de notre frère ou de notre sœur, et même encore plus bas que le cœur de chacun d'entre nous. Cherchons-le à ses pieds. Aussi scandaleux, aussi fou et difficile à croire, c'est ce à quoi le disciple est appelé à mettre en œuvre, s'installer aux pieds des plus petits, comme l'a fait leur maître. Ce geste que lui-même a fait nous permettra de comprendre sa vie, son œuvre, et que Dieu ne cherche pas, ne cherche aux pieds de chaque être humain. Ne regardons pas en haut, ni à droite, ni à gauche. Baissons nos yeux sur nos pieds. Les yeux remplis de larmes, nous y verrons notre Sauveur couronné d'épines. Cherchons notre regard. Les mains jointes au-dessus de sa tête, nous demandons quel sera notre choix. Recevoir cet amour ou le refuser et le rejeter. Ce qui ne fera que remplir ses yeux de larmes. Prenez conscience, frères et sœurs, de ce que je vous explique. Imaginez Jésus rentrer dans cette salle, se mettre à genoux et vous implorer d'accepter son amour et de vous engager pour cet amour. Ferons-nous souffrir le cœur du crucifié? Nous détournerons-nous de celui qui porte en lui le salut? Ou voulons-nous être un disciple accompli? Dans tout ce qui a été dit, dans les trois messages que je vous ai apportés, le figuier stérile, la vigne improductive, et celui-ci aujourd'hui ce matin, le disciple engagé, qu'allons-nous choisir? Avons-nous bien compris ces trois messages? Et à la lumière de ce que nous avons compris, chercherons-nous à être accomplis? Posons-nous la question. Réfléchir, s'instruire, connaître et comprendre. Voilà la mission du disciple curieux et la mission du disciple engagé. Et qu'après avoir compris, il s'engage et il mettra chacun de ses pas dans les pas de son maître. Et après avoir compris le geste de Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples, lui aussi se mettra à genoux, non pas essentiellement pour prier dans le secret de sa chambre, mais aussi pour aider, pour faire comprendre, pour interroger les consciences, pour agir parfois avec des actes scandaleux et incompréhensifs aux yeux du monde. Mais à qui devons-nous plaire? Aux yeux du monde qui ne comprennent pas, ou à notre Père Céleste qui sait ce que nous devons faire et qui nous le demande? Encore aujourd'hui, que cette méditation ne reste pas vaine, qu'elle n'entre pas dans une oreille droite pour sortir dans l'oreille gauche sans y laisser une trace. Mais réfléchissons à qui nous voulons servir. Nous ne pouvons avoir de maître. Cela sera vain et inutile. Soyons tous des hommes et des femmes accomplis. Soyons des frères et des sœurs engagés dans notre marche. Car de la manière dont nous aurons accompli notre œuvre, de la manière dont nous aurons utilisé nos biens spirituels, nos talents, nos dons spirituels, nos dons matériaux, tout ce qui est matériel qui nous entoure, qui peut faciliter la vie à l'un de nos plus proches, le Seigneur nous en donnera la récompense dans les cieux. Si tu as bien géré tes talents, tu auras des récompenses. Si tu les as cachés, si tu les as enfouis, même à celui qui n'a pas, on retirera ce qu'il a. Dures sont ces paroles. Est-ce qu'on les comprend vraiment? Notre vie sur terre, l'œuvre que nous avons à accomplir, la mission que nous devons accomplir, aura des répercussions pour notre éternité. Jésus nous laisse du temps, comme je l'ai déjà dit dans les précédents messages. Il est patient. Il a laissé du temps aux disciples d'Emmaüs. Il a laissé du temps à Pierre. Il m'a laissé 13 années Il a patienté 13 ans pour que je revienne à lui. À vous aussi, il laisse du temps. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, dans laquelle êtes-vous? Si vous êtes dans les deux premières, il vous laisse du temps pour franchir la troisième. Quel sera votre choix? Merci. Seigneur, ta parole est créatrice de vie. Seigneur, ta parole bouscule, interroge, révolte, provoque. Mais ta parole est la vérité. Ta parole éclaire. Ta parole sonde nos âmes et notre être tout entier. Fais que cette parole, Seigneur, soit ancrée dans notre cœur profondément. Fais que cette parole ranime l'esprit qui est en nous, si celui-ci fume ou a tendance à s'éteindre chaque jour. Fais que cette parole, Seigneur, soit sur notre cœur. Et donne-nous la grâce, s'il te plaît, de faire de cette parole notre code de vie. De faire de cette parole, Seigneur, une quête, une recherche de ton amour que nous pourrons manifester. Oh Seigneur, des obstacles, des luttes, des chutes, des échecs. Ils sont nombreux, les échecs. Elles sont nombreuses, les luttes. Mais par ta grâce, Seigneur, je te demande d'être patient. Dans ton amour infini, dans ta grâce abondante, dans chacun de nos cœurs, tu puisses manifester ton amour et que tu nous amènes à le comprendre. Aidé de l'Esprit Saint que tu nous as donné. Cet Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Que ton nom soit béni, que ta parole soit chérie. Et que nous faisons de toi notre premier amour. Merci Seigneur. Amen.